Je vous passe la présentation de Franck Julichert. Franck Julichert est né en 1965. Il est physicien, chercheur au CNRS et directeur de recherche à l'Institut Max Planck à Dresde en Allemagne. Je vais dire quelques mots sur sa carrière. Il est docteur à l'Université de Cologne et il a fait sa thèse de doctorat en fait à l'Institut de la recherche des solides qui est à Jülich en Allemagne sous la direction du professeur Reinhard Lipowski. Entre août et décembre 1994, il a participé à un programme de recherche consacré aux biomembranes à l'Institut de physique théorique de l'Université de Californie, Santa Barbara, USA. Entre 1994 et 1996, il a mené des recherches postdoctorales au département de physique de l'Université Simon Fraser de Vancouver au Canada. Entre 1996 et 1998, il a mené des recherches en physico-chimie à l'Institut Curie à Paris et en physico-chimie théorique à l'ESPCI à Paris. Et entre 1998 et 2001, il est devenu chercheur en physico-chimie au CNRS et à l'Institut Curie à Paris. Et depuis 2002, c'est tout récent, directeur de recherche à l'Institut Max Planck de physique des systèmes complexes en Allemagne. Il est spécialiste dans l'approche physique des problèmes biologiques. Il a notamment travaillé sur les moteurs biologiques et ses travaux plus actuels portent plus spécifiquement sur l'audition et sur l'oreille. Franck Julichert a publié des articles dans de différentes revues spécialisées nationales et internationales et il est également membre du comité éditorial de la revue New Journal of Physics. Il s'est vu en 1990 décerner le prix Springerum de l'université d'Aix-la-Chapelle. Voilà. Franck Julichert, je vous cède maintenant la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi pourra suivre un débat d'une vingtaine de minutes avec le public. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette introduction et bonjour à tous. Cette série de conférences sur les nanotechnologies montre des efforts de développer des techniques pour manipuler des structures et des objets à une échelle moléculaire de quelques nanomètres. Le but de ces efforts est de créer des structures artificielles complexes à cette échelle sous-microscopique et de développer une véritable technologie à cette échelle. Des cellules vivantes ont créé des macromolécules biologiques et des nano-objets complexes qui sont des exemples et qui donnent une motivation pour ce qu'on voudrait aussi réaliser artificiellement par des nouvelles techniques. Ces nano-objets biologiques sont très intéressants dans plusieurs perspectives différentes. D'abord, l'étude des macromolécules biologiques est essentielle pour la compréhension du fonctionnement des cellules vivantes. En plus, les macromolécules biologiques constituent des exemples de nano-objets avec des fonctions très diverses, comme par exemple de véritables moteurs à l'échelle moléculaire. Ils font donc preuve que des fonctionnements complexes à l'échelle moléculaire sont tout à fait possibles en principe et qu'ils sont déjà réalisés par la nature. L'étude de ces nano-objets biologiques permet aussi d'étudier les particularités et les limitations d'un fonctionnement à l'échelle moléculaire et les distinguer du fonctionnement des technologies habituelles macroscopiques. Par exemple, à l'échelle moléculaire, il y a l'importance de fluctuations. Les macromolécules fonctionnent d'une manière stochastique, n'est pas d'une manière déterministe. Finalement, des nouvelles technologies de micromanipulation permettent aujourd'hui d'étudier les propriétés et les comportements de macromolécules biologiques au niveau du molécule individuel. Dans mon exposé, je vais vous présenter des exemples de macromolécules biologiques capables de générer des mouvements et des forces au niveau d'un molécule individuel. Ces systèmes sont importants dans des phénomènes actifs dans les cellules vivantes, comme par exemple la division cellulaire, le mouvement créé par des cellules, le transport des composants dans les cellules et aussi la contraction musculaire. D'abord, je vais vous présenter je vais vous donner une impression de l'organisation des cellules vivantes et de l'importance des phénomènes actifs et des structures moléculaires complexes. Voici les échelles importantes. Vous voyez à droite des échelles macroscopiques, une cellule d'un animal ou d'une plante peut avoir une taille d'un dixième de millimètre, ce qui veut dire 100 micromètres. Si on passe à gauche, à chaque étape, les échelles sont diminuées par un facteur 10. Une bactérie est déjà plus petite, de l'ordre des micromètres. Elle est encore bien visible sous un microscope optique, qui est limité par la longueur d'onde de la lumière visible. Si on passe vers les échelles plus petites, un virus, par exemple, c'est déjà un nano-objet biologique complexe d'une taille de à peu près 100 nanomètres. Il consiste de protéines, il contient de l'ADN qui porte le code génétique. Allant encore plus petite, les macromolécules les plus importantes dans les cellules vivantes sont des protéines. Ce sont des molécules qui peuvent consister de milliers d'atomes et avoir une structure tridimensionnelle très complexe. Une grande protéine, typiquement, a une taille d'à peu près 10 nanomètres. Une autre macromolécule biologique importante, c'est l'ADN, qui porte le code génétique, qui peut devenir très très long et a un diamètre de quelques nanomètres, 1 à 2 à 3 nanomètres. Après, il y a les molécules plus petites, comme des lipides, qui constituent des membranes biologiques. Et finalement, on arrive en dessous d'un nanomètre, aux petites molécules comme l'eau, et après, il y a des atomes. Dans une cellule vivante, il y a tout ce monde en dessous d'un micromètre, le monde des nanomètres, visible seulement par microscope électronique, où il y a un grand nombre de macromolécules qui ont des rôles actifs très spécifiques. Si on regarde à une cellule sous le microscope optique, on voit un grand nombre de structures diverses, des organelles qui ont des rôles variés et spécifiques. Il y a toute une activité dynamique dans cette cellule, le transport des organelles, des matériaux. Toute cette activité est due à l'activité de protéines qui existent en grand nombre et jouent un rôle dans tous ces processus actifs. Je vais vous illustrer ça en un exemple, c'est la division cellulaire. Vous voyez sur cette image des chromosomes d'une cellule, d'une plante, qui est juste avant la division. Les chromosomes sont condensés pour pouvoir se dupliquer. Il y a un grand nombre de protéines qui sont en train de travailler sur l'ADN, sur ces molécules, pour les dupliquer. Les chromosomes sont dupliqués. On voit ça dans cette séquence vidéo. Il y a un mouvement assez irrégulier. En fait, il y a des protéines qui tirent sur les chromosomes pour les mettre à un bon endroit. Quand ils sont bien alignés, les chromosomes dupliqués sont tirés par des structures moléculaires, par des moteurs, dans les pôles opposés de la cellule pour les séparer. Après, la cellule peut se diviser. Les chromosomes se décondensent et perdent leur identité visible. Vous avez vu dans cette séquence cette activité dynamique dans la cellule. Le fait qu'il y a des fluctuations dues à cette activité de milliers de protéines qui travaillent ensemble, et tout ensemble, il crée un phénomène qui est bien déterminé et qui sépare les chromosomes. Toute cette monde de protéines qui est active n'est pas visible dans ce microscope. On voit juste des structures plus grandes et les phénomènes qui se passent à l'échelle du micromètre. Ce que vous n'avez pas vu dans ces images, c'est l'existence de ces filaments qu'on appelle des microtubules, qui sont organisées autour de deux centres ou deux pôles de la cellule. Ces microtubules croissent à partir de ces centres. Ils se attachent aux chromosomes. Ils aident dans le phénomène de mettre les chromosomes au bon endroit pour les diviser. Et après, il y a des petits moteurs et la dépolymérisation de ces filaments qui tirent les chromosomes dans les deux, vers les deux pôles de la cellule. Ces filaments font partie de ce qu'on appelle le cytosquelette des cellules eucaryotes. Ça veut dire toutes les cellules qui ont un noyau ont ces structures. Cet cytosquelette est un réseau tridimensionnel de filaments essentiels pour la stabilité et les propriétés mécaniques de toutes cellules vivantes. Et il consiste de deux types de filaments importants. Je vous ai déjà montré ces microtubules impliqués dans la division cellulaire. Il y a aussi un deuxième type de filaments qu'on appelle les filaments d'actine. Ces filaments sont des vrais nano-objets biologiques qui se forment à partir des unités identiques qui cristallisent et forment des structures linéaires. Ils ont un diamètre de quelques nanomètres. Et ce qui est très important, c'est qu'ils sont aussi polaires. Ça veut dire que chaque structure donne une directionnalité. Elle a deux bouts différents et elle a une directionnalité qui est essentielle pour les phénomènes de transport où elle peut donner une direction de mouvement. Cette cytosquelette est impliquée dans un grand nombre de phénomènes dynamiques des cellules vivantes, comme vous avez vu dans le cas de division cellulaire. Et les protéines les plus importantes impliquées dans cette activité de ces phénomènes, c'est ce qu'on appelle des moteurs moléculaires, des protéines qui, au niveau d'un seul molécule, sont capables d'induire des mouvements et des forces. Un moteur moléculaire, c'est un grand macromolécule, une protéine, qui se lie spécifiquement à un de ces filaments du cytosquelette et qui est capable de créer des déplacements dans une direction donnée par la polarité. Si un objet est attaché à cette molécule, il peut être transporté dans la cellule. Il y a plusieurs familles de ces moteurs différentes qu'on distingue. Dans la suite, je vais encore parler des moteurs qu'on appelle les kinésines, qui travaillent sur ces microtubules, et les moteurs qu'on appelle les myosines, qui sont impliqués dans la contraction musculaire. Pour pouvoir créer des mouvements, on a besoin d'un carburant, une source d'énergie. Dans le cas de ces moteurs, c'est une molécule qu'on appelle le triphosphate d'adénosine, qu'on voit ici schématiquement. Cette molécule fait une réaction chimique où il perd un groupe phosphate et l'énergie qui est libérée dans cette réaction chimique est utilisée pour faire bouger la molécule. Ça se passe de la manière suivante. Un molécule de cet carburant se lie au moteur. Quand il est lié au moteur, il y a une réaction chimique, un phosphate est coupé. À la suite, les deux produits se détachent du moteur. Le moteur est après le cycle dans le même état comme il était avant. Mais un molécule du carburant a été consommé et cette énergie a été libérée. On peut directement observer le mouvement généré par ces molécules sous le microscope dans la manière suivante. Dans ce cas, il y a des filaments greffés sur une surface de verre et il y a des petites billes artificielles de latex couvertes avec très peu de moteurs. Par ces moteurs, ces billes ont la tendance de spécifiquement s'attacher à ces filaments qu'on voit juste sur cette image de microscopie. Et si on rajoute maintenant ce carburant, ces billes vont commencer de se déplacer le long de ces filaments. Comme vous voyez ici, toutes ces billes bougent le long des filaments. Et ce qui est important ici, c'est de voir que pour chaque filament donné, tous les billes vont bouger dans le même sens parce que la directionnalité du mouvement est donnée par la polarité de ces filaments. Maintenant, ce n'est pas seulement possible de regarder les mouvements de ces molécules, de ces molécules individuelles, mais on peut aussi manipuler ces molécules, exercer des forces externes et mesurer les forces qui sont créées. On fait ça en utilisant ce qu'on appelle des pinces optiques. L'idée de base, c'est de passer un faisceau laser dans l'objectif d'un microscope optique. Ce faisceau sera focusé dans la région qu'on regarde. Dans le focus du laser, il y a une très grande intensité de la lumière, des très grands forts champs électriques sont concentrés là-bas. Toute petite particule polarisable sera attirée par ce focus à cause des forces dipolaires. Ça veut dire, en présence dans cette focus du laser, il y aura une force qui agit sur cette bille qui va essayer de l'attirer vers le focus. Et si maintenant cette molécule essaye de bouger, il doit travailler contre cette force. Si on maintenant suit le focus du laser exactement le mouvement de la bille, on peut garder une force appliquée à ce système pendant qu'il bouge. Ça veut dire l'idée, c'est quand la bille bouge, on suit avec le laser et on a une situation où on manipule le molécule, on impose une force constante pendant qu'il mouve. Cette expérience qui a été faite par Steve Block aux États-Unis est montrée ici. On suit à la fois le mouvement de la bille et le mouvement du focus du laser. On assure que le laser bouge exactement de la même manière que la bille pour garder la force constante qui est appliquée. Et on peut observer avec une très grande bonne résolution le mouvement de cette moteur. On voit des détails de quelques nanomètres. On voit qu'il bouge d'une manière stochastique. Il y a des effets aléatoires, des fluctuations, mais il bouge en moyenne dans une direction. Dans certaines conditions, on peut voir que le moteur avance en petits pas qui correspond à la périodicité de ces filaments sur lesquels il s'attache. Cette périodicité est de 8 nanomètres qui devient donc visible dans ce chemin du moteur. Avec cette même technique, on peut caractériser les comportements mécaniques de ce moteur au niveau d'un molécule individuel. On impose une force, comme j'ai expliqué, constante, et on mesure la vitesse moyenne réalisée par ce système. Un résultat de ça est montré dans ce petit diagramme. Pour une concentration du carburant assez élevée, on trouve des vitesses de presque 1 micromètre par seconde. S'il y a maintenant une force externe qui oppose le mouvement, le système va ralentir. On voit ça en fonction de la force sur les points bleus. Et la force maximale que le système peut supporter, dans ce cas, est de quelques piconewtons. Ce sont des forces extrêmement faibles, généré par un seul molécule, un piconewton, c'est 10 puissance moins 12 newton. Maintenant, je passe à un deuxième exemple de la génération de mouvements et de forces par des molécules biologiques. Il s'agit de la contraction musculaire. Si vous regardez un muscle, il consiste d'un grand nombre de fibres qui sont en parallèle. Chaque fibre musculaire, c'est en fait une cellule vivante spécialisée pour créer des mouvements et de se contracter. Si on regarde plus en détail dans une fibre musculaire, on voit qu'il y a encore des fibres plus petites là-dedans, qu'on appelle des myofibrilles. Et chaque myofibrille contient des unités qui sont capables de se contracter, deux tubes de filaments arrangés en parallèle. Il s'agit des filaments d'actine, ce que vous avez déjà vu juste avant, et un deuxième type de filaments créé par un assemblage de moteurs moléculaires qu'on appelle myosine. Ces moteurs de myosine interagissent en grand nombre avec l'actine. En présence du carburant, ils font on glissait ces tubes de filaments les uns par rapport aux autres, ce qui crée la contraction de ces structures. Ces structures sont arrangées en série et en parallèle en très grand nombre, ce qui donne la contraction musculaire à grande échelle, ce que vous connaissez tous, et ce qui crée tous les mouvements des animaux. Il est maintenant possible de mesurer les phénomènes de génération de force de ces molécules myosine sur l'actine au niveau d'un molécule individuel. Et en même temps, on peut aussi suivre comment la molécule de carburant est consommée. Et je veux vous illustrer comment ça s'est fait. L'idée est similaire de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Des moteurs de myosine purifiés sont attachés sur un substrat de verre. Et dans ce cas-là, on utilise encore des pinces optiques, deux pinces optiques, pour manipuler un seul filament d'actine. Il y a deux billes attachées au bout de ce filament, il y a deux focus d'un laser. Rapprochant ce filament vers le moteur permet maintenant de mesurer les mouvements de ces billes qui sont dus aux forces et mouvements induits par le moteur. En plus, dans cette situation, on peut aussi regarder la consommation du carburant. Si on utilise un carburant un peu modifié, fluorescent, capable d'émettre de la lumière s'il est éclairci par un laser. Ça veut dire qu'on rajoute un autre laser qui illume par dessous en réflexion à cette interface, ce qui fait qu'il y a une toute petite région où il se trouve le moteur qui est illuminé. Et seulement si un molécule de carburant arrive, il va commencer à émettre de la lumière. Dans cette situation, ce qu'on observe, c'est on utilise des concentrations de carburant très faibles, on attend un certain moment pour l'arrivée d'un molécule individuel du carburant qui s'attache au moteur. Dans cette situation, il y a deux choses qui se passent en même temps. Le filament se détache du moteur, ce qui est mesurable dans le mouvement de ses billes, et il y a de la lumière qui est émise par cette molécule de carburant qui est éclaircie maintenant. À la suite, il y a la réaction chimique. Le phosphate s'en va, ça ne change rien pour l'instant. Et dans cet état, le moteur va se réattacher au filament. Et dans les moments, au moment où ce produit se détache du moteur, le moteur crée un petit mouvement et la lumière qui correspond à cette molécule de carburant s'éteint. Ça veut dire, dans cette expérience, on peut suivre à la fois les très faibles déplacements activement créés par un molécule individuel, ce sont des déplacements de quelques nanomètres, et on observe l'accouplage direct avec la réaction chimique d'un seul molécule de carburant. En réalité, on voit des traces comme ça. Ça veut dire que la trace noire en eau suit le déplacement de la bille. Vous voyez des sauts très rapides qui correspondent au changement du moteur qui crée des petites déformations, des petits déplacements de dizaines à vingtaines de nanomètres. Et en même temps, on peut, dans la trace rouge, suivre la fluorescence émise par le carburant qui fait des sauts en même temps que le moteur, indiquant que le carburant a fait la réaction chimique et s'est détaché du moteur. Ces exemples étaient des macromolécules biologiques qui constituent des moteurs linéaires, qui se déplacent le long d'un filament. Je vous montre maintenant un troisième exemple, un macromolécule qui en fait est capable de créer des rotations, un moteur rotatif. La structure de cette molécule est très complexe, vous la voyez ici à gauche. Il s'agit en fait d'un molécule qui, dans toutes vos cellules, joue le rôle de produire le carburant ATP pour les autres moteurs que vous avez vus. Ça veut dire normalement, ce système produit du carburant, c'est la synthèse de l'ATP. Et là, deux parties différentes qui jouent des rôles très différents. Une partie en eau, donc je ne vais pas vraiment parler, qui utilise un gradient de protons pour créer une rotation. Et à la suite, il y a une partie en bas, qui est mieux connue, qui utilise le travail mécanique de cette rotation pour créer le carburant qui est utilisé ailleurs. Ça veut dire que la molécule est capable de se lier aux produits chimiques que vous avez déjà vus et de créer un ATP, le carburant utilisé par les autres moteurs. La structure atomique de cette molécule a été obtenue par diffusion de rayons X par John Walker, qui a eu le prix Nobel pour ses travaux en 1997. Et cette structure que vous voyez ici a la propriété qu'elle est symétrique d'une manière qui suggère que ce système crée des rotations, ce qui a été proposé par exemple par M. Walker. Ces rotations peuvent être observées directement. Et je vais vous expliquer comment ça peut être fait. Ici, vous voyez encore une fois la même molécule, la groupe en haut, dont je ne vais pas vraiment parler, et la groupe en bas, qu'on appelle F1, qui produit le ATP. Un groupe japonais de Kinoshita a purifié cette partie en bas, donc on connaît la structure que vous avez vue dans la dernière image, et ils ont greffé cette structure sur un substrat. Si dans cette situation, on fournit le carburant, le ATP, le système va travailler en reverse, il va utiliser cet ATP pour créer des rotations. Pour pouvoir observer ces rotations, il faut attacher quelque chose qui est visible et il faut l'attacher à cette région qui tourne. Ce groupe a utilisé un filament d'actine attaché à cet moteur par des techniques biochimiques. Cet filament d'actine est assez long et donc facilement visible dans les microscopes optiques. Dans cette image, vous voyez en cette petite ligne blanche, ça c'est le filament d'actine attaché à un seul molécule de ce type. Rajoutant le carburant ATP, le moteur commence à travailler et il tourne ce filament autour de ce point où se trouve le moteur. Ça, c'est donc une preuve directe que cette molécule, au niveau des molécules individuelles, produit des mouvements rotatoires. C'est un vrai moteur rotatif. Et si on étudie en détail les propriétés de ce mouvement, on peut caractériser les propriétés stochastiques et mécaniques de ce système. On voit encore une fois qu'il y a des mouvements en petits pas. Le système préfère certains angles et il fait des petits pas en 120 degrés. Et si on suit l'angle en fonction du temps, on voit ces pas. Et il y a de temps en temps des événements en arrière, il y a des petites erreurs. Le système bouge d'une manière stochastique, mais en moyenne, il tourne bien. Parce qu'on connaît la structure atomique de cette protéine, on peut avoir une certaine idée comment le système change ses conformations pendant qu'il tourne. Et je vous montre une petite animation de comment on imagine pourraient être ces mouvements. En fait, ce n'est pas du tout connu quels sont vraiment en détail les changements, conformations de cette molécule. Vous voyez ici, il y a trois angles qui sont préférés et pour bouger, il y a des changements, conformations de cette macromolécule. Ou au moins, ça c'est une image, comment on imagine ça pourrait être. Quels sont maintenant les principes qui sont à l'origine d'un fonctionnement d'un moteur qui travaille à l'échelle moléculaire individuelle? Je veux discuter certaines idées générales qui distinguent ce genre de système, disons, des moteurs macroscopiques. D'abord, il y a deux conditions qui sont nécessaires pour qu'un système dans un environnement visqueux peut produire des mouvements spontanés. On a besoin d'une structure qu'on appelle asymétrique. Ça veut dire que ça doit être une différence si le système bouge à droite ou à gauche. Et deuxièmement, on a besoin d'une source d'énergie, sinon ça ne peut pas bouger spontanément. Si ces deux conditions sont satisfaites, en général, le système va bouger. Et ça, c'est un principe qu'on appelle le principe de Curie, selon Pierre Curie, que si ces conditions sont satisfaites, ça va aussi se passer. En plus, des moteurs à l'échelle moléculaire sont sujets à des fluctuations. Il y a les fluctuations d'origine thermique, ça veut dire le mouvement très rapide des petites molécules qui, de manière aléatoire, bougent dans tous les sens à température ambiante. Il y a aussi la stochasticité et les fluctuations dues au fait que les réactions chimiques se passent de manière aléatoire. On peut se demander si on peut utiliser ces fluctuations et les transformer en mouvements dirigés par un certain type de rectification. Cette idée de rectifier les fluctuations a été discutée par Richard Feynman dans les années 60 dans ce qu'il appelle un cliquet thermique, ce qui est illustré ici à droite. L'idée, c'est qu'on a un roue à dents avec des petites voiles. Les voiles sont en présence de, disons, un gaz ou un liquide à température ambiante. Il y a des forces aléatoires qui agissent là-dessus et ça va fluctuer dans les deux sens, mais pas tourner d'une manière avec une direction. Maintenant, si on rajoute un roue à dents avec un petit cliquet, on pourrait imaginer qu'on bloque tous les mouvements en arrière, on permet seulement des mouvements spontanés en avant, et que, donc, comme ça, on pourrait rectifier le mouvement et créer un mouvement dirigé. Bien sûr, il manque dans cette situation une source d'énergie, comme ça, le mouvement n'est pas possible. Par contre, le mouvement devient possible avec une très petite modification si on met en contact ce système avec deux températures différentes. Par exemple, la voile avec une autre température que le cliquet ici. Il y a maintenant la possibilité de prendre l'énergie dans ce thermostat et le système va bouger. Si on veut maintenant appliquer ce genre d'idée au fonctionnement des moteurs macromolécules biologiques, il y a des différences importantes. D'abord, à cette échelle moléculaire, ce n'est pas possible de créer des gradients de température. On ne peut pas utiliser ce principe. Par contre, on a une structure asymétrique, le filament, qui pourrait fournir le rôle de cette cliquet et cette roue à dents. Et la source d'énergie dans ce cas, bien sûr, ça c'est la réaction chimique. Ça veut dire que le moteur change sa conformation tout le temps à cause de cette réaction chimique qui est répétée. Ces changements de conformation des moteurs sont aussi une sorte de fluctuation de cette molécule qu'on peut rectifier sur cette structure asymétrique. Et on peut caractériser ce système comme un cliquet isothermique avec une source d'énergie dans la réaction chimique. On peut développer ce genre de langage pour décrire la physique de la transduction de l'énergie chimique pour créer un mouvement dans un filament, avec l'idée que la chimie induit des changements de conformation de ce moteur. Il va apparaître dans des formes un petit peu différentes. Dans chaque conformation, on caractérise l'interaction entre le moteur et ce filament par un paysage d'énergétique. Un paysage d'énergie, par exemple, dans un cas d'un moteur avec une seule tête, il y a un état détaché qui ne contribue pas à la force et un état attaché avec un paysage énergétique dont les minima correspondent au site d'attachement. et le système veut toujours trouver les points où il est le mieux attaché. Si ce système périodiquement change entre ces conformations, il va, à cause des principes de Curie, il va avancer le long des filaments. On peut généraliser cette description aussi au cas un peu plus complexe, par exemple le cas où il y a deux têtes identiques. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'un état attaché, un état détaché. Une des deux têtes peut toujours rester attachée au filament, ce qui change un petit peu les diagrammes d'énergie. Mais encore, en changeant entre les deux états et après relaxant vers le nouveau minimum d'énergie où le système est mieux attaché, il va avancer le long des filaments en changeant d'une tête à l'autre pendant qu'il avance. Cette description permet une description quantitative de ce phénomène de transduction de l'énergie de sa forme chimique au travail mécanique. On peut aussi discuter la qualité de la transduction de l'énergie dans ces systèmes qu'on caractérise par le rendement. Le rendement, c'est le travail produit par la molécule divisé par l'énergie chimique consommée. Bien sûr, l'énergie produite ne peut pas être plus grande que l'énergie consommée, et 100% est le optimum de cette quantité. Toutes ces quantités sont en principe mesurables avec des techniques de micromanipulation. Par exemple, le travail mécanique est directement lié au produit de la force et la vitesse qu'on peut imposer et mesurer, comme vous avez vu. L'énergie chimique consommée est liée à l'énergie libre de la réaction chimique qui prend place. Pour le cas de cet moteur rotatif, la synthase d'ATP, ce rendement a été mesuré et on trouve un rendement de plus que 80%, ce qui montre qu'un moteur qui travaille en présence de fluctuations à cette très petite échelle dans un environnement visqueux est bien capable de transduire l'énergie avec une très bonne rendement, ce qui est très impressionnant. Les moteurs et les macromolécules actifs que j'ai introduits travaillent dans une cellule vivante, pas toutes seules, mais ils sont intégrés dans des structures complexes avec un très grand nombre d'autres protéines, et les protéines actives travaillent aussi en grand nombre. Le fait qu'on a un très grand nombre de protéines qui sont intégrées ensemble, ça crée des comportements et des structures très différentes que ce qu'on voit à l'échelle d'un moteur individuel. Et je vais vous montrer quelques exemples des structures actives un peu plus complexes et leur comportement. Le premier exemple que je vais montrer, ça s'appelle des cils et des flagelles. On voit par exemple à gauche ici un organisme unicellulaire qui est couvert par quelque chose qu'on pourrait appeler des cheveux. Ce sont des cils qui sont capables de générer des mouvements. Ils sont capables de battre périodiquement et cet organisme peut nager comme ça dans une solution. Les mêmes structures, on trouve aussi dans la queue de cette spermatocyte qui est capable aussi de bouger, de battre, de créer un onde de cette structure qui se propage, ce qui permet aussi de nager. D'où vient ce genre de mouvement? Si on regarde à l'intérieur de ces structures qui sont très conservées, ça veut dire beaucoup d'animaux différents et cellules très différentes ont exactement ces structures de la même manière, on voit des filaments, des microtubules arrangés d'une manière très particulière. Il y a 9 de ces microtubules sous forme d'un cylindre. On voit cette structure ici dans une image de microscopie électronique. Le diamètre ici, c'est 300 nanomètres. Et sur chaque microtubule, il y a des protéines, des moteurs attachés en très haute densité. Ils connectent les microtubules voisins et comme ça, ils peuvent créer des forces internes dans ces structures. Ils font glisser les microtubules voisins les uns par rapport aux autres, ce qui permet d'induire des flexions, comme on voit dans ce diagramme. Les moteurs induisent le glissement, et si le glissement n'est pas possible, ça crée une flexion. Dans cette situation, il y a un très grand nombre de protéines actives qui sont présentes et couplées par ces filaments élastiques. Le fait qu'il y a ce grand nombre d'éléments rend possible des effets collectifs qui font que par auto-organisation, cette structure produit des comportements comme des mouvements oscillatoires, le battement et la génération de ondes de flexion. Un deuxième exemple que je veux présenter concerne des cellules capables de détecter des stimulus mécaniques. Elles sont des cellules qui, dans l'oreille interne, sont responsables pour la détection des sons. Ces cellules sont dans la cochlée de l'oreille interne. Ils sont spécialisés pour détecter des stimulus mécaniques. On les appelle des cellules ciliées parce qu'ils ont une structure particulière avec, comme on voit dans cette image-là, ce qu'on appelle une touffe ciliaire. Ça, c'est un nombre de petites extensions comme des doigts qui sont mis ensemble et connectés par des fibres extrêmement minces. On voit ici, dans une image de microscopie électronique, un de ces doigts qui est rempli à haute densité par des filaments d'actine. Cette structure est capable de détecter des déformations extrêmement minces. Si on bouche ce point de cette touffe ciliaire de moins qu'un nanomètre, la cellule va le détecter. En plus, on sait maintenant que ces structures ne sont pas seulement des détecteurs passifs, mais ils sont aussi capables de créer des mouvements spontanés. Ils contiennent des protéines comme des moteurs pour pouvoir faire ça. Et le rôle de cette activité, de cette possibilité de bouger spontanément, c'est pour amplifier des stimulus faibles. Ça veut dire que ces cellules ont réalisé des structures qui ne sont pas seulement des détecteurs à une échelle d'à peu près un micromètre, de déformation en dessous d'un nanomètre, extrêmement faible. En plus, ils contiennent aussi des amplificateurs actifs, et tout ça s'est réalisé avec des matériaux d'une cellule, avec des protéines. Et bien sûr, par exemple, des moteurs moléculaires sont impliqués à cette amplification active. J'arrive maintenant à la dernière partie de mon exposé, et je veux revenir à la nanotechnologie. Tous ces exemples de macromolécules biologiques que je vous ai présentés jusqu'à maintenant sont extraordinaires dans le sens qu'on voudrait bien imiter ce genre de système artificiellement, mais c'est extrêmement dur et on n'est pas très loin dans cette direction. Mais il y a quelques démarches qui essayent ça, qui sont un peu prometteurs, que je veux vous présenter. Le problème, c'est est-ce qu'on peut réaliser des structures artificielles, par exemple, qui sont capables de travailler comme un moteur moléculaire. Le premier exemple que je vais vous montrer est basé sur l'idée qu'on peut bien fabriquer, avec des technologies de microstructuration, des objets artificiels à petite taille, mais on n'est pas encore capable de créer quelque chose qui est un vrai moteur. Par contre, on peut prêter le moteur biologique et l'utiliser pour bouger quelque chose qui est artificiel. Ça a été fait par un groupe américain, que j'ai montré ici, qui ont créé des petites podestes avec un diamètre de plusieurs dizaines de nanomètres. Ces podestes sont faits de nickel. Sur ces podestes, ils ont attacher des moteurs rotatifs que vous avez vus, la synthase de l'ATP. D'abord, il faut purifier cette molécule, il faut l'attacher par des techniques biochimiques qui font ça spécifiquement. Ensuite, ils ont fabriqué des petites baguettes de quelques dizaines ou centaines de nanomètres, aussi faites de nickel, et ils les ont attachées à cette partie qui bouge. En présence du carburant biologique, de l'ATP, le moteur biologique va commencer à tourner et il va bouger ces petites structures artificielles. Bien sûr, ça n'est pas un moteur artificiel, mais on a pu utiliser, prêter ces moteurs dans une cellule vivante. Un deuxième exemple, ça c'est l'essai de vraiment réaliser un moteur artificiel. L'idée, c'est d'imiter cette idée de cliquet thermique, de réaliser un molécule complexe qui a un peu les mêmes propriétés. Le molécule qui a été fabriqué est schématiquement indiqué ici. Il consiste de deux parties. Il y a quelque chose comme une voile avec ses trois éléments. Il y a une liaison covalente qui le connecte avec la deuxième partie du molécule. Cet endroit peut tourner, ça veut dire cette voile peut tourner. La deuxième partie du molécule revient en avant et bloque un peu la rotation de cette voile. Ça veut dire qu'il faut passer cet obstacle pour pouvoir tourner. La symétrie de cette molécule fait que tourner à droite ou tourner à gauche n'est pas tout à fait pareil. Ça veut dire que c'est vraiment un exemple pour cette cliquet qu'on voit à gauche. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ce système ne peut pas tourner spontanément parce qu'il manque une source de l'énergie. Ça va fluctuer à cause de l'agitation thermique, mais ça ne permet pas une rotation dirigée. On ne peut pas rectifier les fluctuations thermiques. Maintenant, pour réaliser quelque chose comme un moteur, il faut fournir de l'énergie, et ça a été fait d'une manière très similaire comme ça font des moteurs biologiques. Avec une réaction chimique, on peut modifier cette molécule. Quand on fait ça, on met l'énergie dans le système et on peut espérer que ça tourne. Ça, c'est assez compliqué à faire. Je vais vous juste montrer un diagramme de pas chimiques qu'on peut réaliser. À chaque pas change un petit peu la structure. Et dans ces réactions chimiques, en principe, on a un moteur moléculaire. Le problème, c'est seulement que ce n'est pas vraiment praticable et ça ne tourne pas rapidement parce que pour chaque pas chimique, il faut laver toute la solution et rajouter d'autres substances. Ça veut dire que cet exemple, ça montre juste qu'en principe, un système comme ça, artificiel, est possible, mais ce n'est pas du tout praticable dans toute cette forme-là. C'est extrêmement lent et pas du tout efficace. Vous avez donc vu que les cellules vivantes utilisent depuis très longtemps des structures moléculaires complexes avec des fonctions diverses et très complexes, et que la cellule est aussi capable de fabriquer ces structures d'une manière précise. En principe, ça c'est ce qu'on voudrait aussi réaliser technologiquement, mais ce qui est un des buts de la nanotechnologie. La cellule va même encore plus loin, parce que l'information pour pouvoir fabriquer ces structures très complexes à l'échelle moléculaire, elle est stockée, comme l'information génétique, aussi à l'échelle moléculaire, sur les molécules de l'ADN. En fait, il existe dans les cellules vivantes un grand nombre de protéines qui sont responsables pour éditer cette information, pour copier, corriger cette information, et après de la lire pour fabriquer des protéines. Et dans les dernières minutes, je vais vous montrer comment une cellule fabrique des protéines à partir de cette information génétique. Bien sûr, l'idée de base de cette information génétique, c'est qu'il y a quatre groupes chimiques différents dans les molécules de l'ADN, et la séquence de ces quatre groupes définit l'information qu'on peut écrire comme une série de lettres. Cette structure de l'ADN a été proposée dans les années 50 par Watson et Crick, et la séquence de cette code génétique définit la forme des protéines, et par exemple de toutes ces machines que je vous ai présentées. Il y a des machines dans la cellule qu'on appelle les ribosomes qui ont le rôle de lire la séquence du code. Trois lettres de cette code ensemble définissent un groupe chimique du protéine qui est produit. Ces groupes chimiques on appelle des acides aminés. Cette machine, le ribosome, lit les triplettes de cette code. Trois lettres ensemble définissent un groupe chimique. Elle charge le bon groupe chimique et ils produisent une chaîne d'acides aminés qui représente le protéine qui est fabriqué. Et la séquence de groupes chimiques correspond et est écrite dans les codes génétiques. Après, on a une chaîne de ces acides aminés, une chaîne linéaire qu'on appelle la structure primaire de cette protéine. Tous ces groupes chimiques sont un petit peu différents, ils ont des interactions entre eux particuliers, ce qui fait que cette structure linéaire se replie d'abord sous formes comme hélices, des structures secondaires, et après ces hélices se replient encore sous forme tridimensionnelle, complexe. Plusieurs de ces molécules très complexes qui sont fabriquées comme ça vont se auto-assembler et former le produit final, par exemple, cette fameuse synthase d'ATP, un molécule très complexe qui peut tourner en présence d'une réaction chimique. Bon, comme vous voyez dans cette série de conférences sur les nanotechnologies, il y a beaucoup de développements intéressants de microstructuration, de manipulation à petite échelle, et à cause de ça, bien sûr, on commence un peu à rêver de créer des systèmes un peu comparables à ce que font les cellules vivantes. Mais comme vous avez aussi vu avec cette complexité, que en fait, on est encore très très loin seulement de imiter de ce que réussissent à faire des systèmes vivantes, et ils font ça déjà depuis très longtemps. Par contre, les développements en, par exemple, nanotechnologie, vont aussi fournir de nouvelles techniques pour pouvoir observer et étudier des systèmes biologiques et de mieux comprendre comment les cellules arrivent à faire, à réaliser ces phénomènes complexes à l'échelle moléculaire. Et avec ça, je suis à la fin de mon exposé et je vous remercie pour votre attention.
Tout d'abord, je vous remercie pour cet exposé très intéressant. Et j'y vois, moi, l'intérêt en particulier, vous l'avez souligné, l'abîme qui existe, si vous voulez, entre les structures naturelles qu'on trouve dans les cellules et les petits essais qu'on essaye de faire pour les reproduire. Il y a, à mon sens, un véritable abîme entre les deux. Et alors, je voudrais vous poser des questions un peu détaillées. Dans ces moteurs moléculaires rotatifs, est-ce qu'on a une idée, enfin on doit le mesurer, voyez-vous, nous avez montré par exemple le cas de l'ATPase avec un filament de myosine par exemple, mais ce n'est pas tout à fait naturel si vous voulez, un filament de myosine c'est lourd. Quelle est la vitesse, le nombre de tours par minute qu'on peut obtenir dans ces systèmes biologiques naturels?
Par exemple, dans le cas de myosine, vous pouvez
dans le cas de
myosine,
de la myosine,
vous pouvez oui. avoir.
Non, mais je parle des systèmes oui. rotatifs.
Vous avez typiquement 1000, le maximum, c'est 1000 changements de conformation par seconde.
Par seconde.
Ça veut dire que vous pouvez aller à quelques dizaines, à centaines de tours par seconde.
combien de
10 à 100.
Quelques dizaines à centaines par seconde.
Par seconde.
Ce que vous avez vu sur le vidéo, c'était plus lent parce qu'il y avait le liquide qui a freiné.
C'est ça. Alors, je voudrais poser une autre question. Dans le cas des systèmes rotatifs, n'est-ce pas, vous avez un peu, beaucoup insisté, à mon avis, sur le côté stochastique. Alors qu'en fait, ce côté stochastique, par exemple, est quand même limité, soit c'est unidirectionnel. Alors, dans le cas des systèmes rotatifs, dans le cas de la TPA, par exemple, vous dites, je donne un comburant, enfin, de l'énergie sous forme d'ATP, qui est transformé en ADP, etc. Mais on sait qu'on peut faire l'inverse. C'est-à-dire que... on peut le faire tourner dans l'autre sens, je pense, n'est-ce pas?
On peut soit le faire tourner en présence de l'ATP, soit si on le tourne mécaniquement, il va produire de l'ATP. Ce sont les deux sens.
C'est ça, c'est ça,
du système.
C'est ça. Alors justement, votre système de cliquet, comment, dans un sens, on peut admettre qu'il y a un cliquet, mais comment, quand il va tourner dans l'autre sens, qu'est-ce qui se produit?
Tous ces systèmes sont réversibles dans le sens que l'énergie peut passer dans les deux sens. Si on a un système qui produit du mouvement à partir d'un carburant, normalement, il y a aussi des possibilités de l'inverser, de le forcer à bouger, et ça va produire le carburant. Dans le cas de cliquer, vous pouvez changer, si vous avez deux températures pour que ça bouge, et ça dépend, deux températures, avec une seule ça ne marche pas. Si vous avez deux températures différentes, ça dépend de quelle des deux est plus importante que l'autre pour définir le sens de la rotation.
Vous ne pouvez pas avoir deux températures comme ça, des petites distances.
Pas aux petites distances, exactement, oui. Comme ça, les moteurs utilisent une réaction chimique.
Vous avez parlé des cellules ciliées qui se trouvent dans l'oreille interne. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces cellules ciliées et le phénomène des acouphènes?
Ça, c'est une question difficile à répondre. En fait, les cellules ciliées sont capables de produire des mouvements oscillatoires. Et dans le phénomène de l'acouphène, il y a le problème qu'on entend des sons même quand il n'y a rien de l'extérieur. Et on pourrait imaginer que si des oscillations sont générées dans l'oreille, ça pourrait être une cause de l'acouphène. Mais en réalité, c'est difficile à faire cette connexion parce qu'un très grand nombre de gens ont ce qu'on appelle des émissions auto-acoustiques dans l'oreille dues aux oscillations des cellules ciliées, mais ils n'ont pas de problème physiologique. Par contre, il y a cet phénomène médical qui souvent est un problème, qui peut exister en absence de toute activité mécanique des cellules ciliées. Comme ça, on ne peut pas faire une liaison claire entre ces phénomènes.
Je voulais demander, là, vous parlez des protéines avec leurs différentes conformations. Je crois que Creutzfeldt-Jakob, c'est une conformation différente, n'est-ce pas, au deuxième stade. Alors, il paraît maintenant que, après Prusiner, on a trouvé que c'est une protéine qui induit tout cela, qui se transforme en une autre protéine. Le gène d'où il agit, on ne sait pas. Est-ce que, pour regarder, vous avez fait le microscope optique, le microscope. Alors, jusqu'où est-ce qu'on peut faire le microscope nano, n'est-ce pas, nanométrique? Est-ce qu'il est question de cela? J'ai entendu l'autre jour qu'on faisait la technologie éventuelle, mais quel est votre avis là-dessus?
Sur comment on peut regarder les structures très petites. Pour la difficulté avec les structures vivantes, c'est que, par exemple, le microscope électronique, qui permet de regarder ces structures, n'est pas possible à utiliser pour les structures vivantes. Il faut fixer la structure. Pour pouvoir regarder les structures très petites sous conditions vivantes, il n'y a pas beaucoup de techniques. Il y a par exemple le microscope à force atomique, mais qui est aussi qui donne pas des images très claires et qui gêne aussi la structure. On peut détruire les structures. On peut aussi pas accéder dans une cellule. Comme ça, il manque bien sûr des techniques pour observer les petites échelles. Et à cause de ça, il manque beaucoup d'informations sur ces échelles à l'heure actuelle. Et tout l'exemple que j'ai montré aujourd'hui, c'était un microscope optique pour avoir accès aux informations, aux structures plus petites.
Je voudrais savoir si on arrive à faire un moteur biologique artificiel, est-ce que ça pourrait rentrer dans la composition d'une prothèse auditive ?
Une prothèse auditive.
Oui, pour pouvoir écouter, si jamais... pour ceux qui ont des problèmes, les malentendants...
Bon, le problème avec les prothèses auditives, c'est d'abord, il faut vraiment mieux comprendre comment fonctionne le système auditif. Et ce n'est pas vraiment juste un problème de petite échelle. Mais il faut comprendre le mécanisme, les principes de détection des sons aux échelles plus grandes. Et je ne pense pas qu'on a besoin des moteurs moléculaires pour imiter le principe de l'oreille. Mais il faut mieux comprendre ces principes de fonctionnement de l'oreille aux échelles plus grandes.
Vous nous avez martelé maintes et maintes fois ce concept de stochastique. Est-ce que celle-ci, en fait, n'est pas tout simplement qu'un concept tout à fait général en matière d'études scientifiques, à savoir qu'on découvre un ordre qu'on étudie, que la science étudie, et parallèlement, si on se permet de changer de dimension, on observe des mouvements qui apparemment ne répondent pas à la grande loi générale qu'on étudie, et que vous auriez dénommé en l'occurrence stochastique, et qui serait peut-être non pas un concept à nous apprendre ce soir, mais tout simplement des parenthèses infimes par rapport à votre sujet général.
Le fait qu'il y a cette importance de fluctuation, ça veut aussi dire que le système c'est un peu plus robuste qu'un système purement déterministe, parce que même en présence de petits événements à assez petite échelle qui ne sont pas vraiment prévisibles, le système fonctionne bien. Et l'importance de ces fluctuations, c'est que ils ont un comportement imprévisible, ils influencent le système, ils les utilisent, mais ça ne dérange pas le fonctionnement du système. Et dans ce sens-là, les fluctuations sont importantes et on n'a pas besoin de connaître les détails d'où ils viennent. On peut les traiter comme perturbations imprévisibles.
Vous avez dit que l'on rêvait, que l'on commence... Je suis là juste devant.
Levez-vous un petit peu comme ça, on vous verra mieux. Merci.
Que l'on commençait à rêver de pouvoir imiter la nature et reproduire les nanomoteurs biologiques. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples, des idées de ce qu'on en ferait si on les avait ? Des applications, en fait.
Bon, je vais vous montrer ce que savent faire les cellules avec. Et une cellule, c'est un système qui utilise un très grand nombre de ces systèmes pour réaliser des fonctions très complexes à petite échelle. Bien sûr, si on arrive juste à imiter un nanomoteur, on ne peut pas faire grand-chose avec. Il faut imiter plus pour avoir des systèmes plus intéressants. Mais les cellules vivantes donnent des exemples que, en principe, c'est possible, mais c'est encore très très loin pour la technologie, bien sûr.
Oui, puisqu'on a la chance d'avoir un spécialiste de l'audition, enfin des structures, disons, de l'oreille interne, je voudrais vous poser la question suivante. Vous disiez, par exemple, que les cils qui baignent dans un liquide, détectent des mouvements inférieurs au nanomètre, si j'ai bien compris, oui. Disons de 6 à 7 angstroms. Mmh. Mais ces cils sont dans de l'eau, dans de l'eau, dans un liquide, si vous voulez. Autrement dit, il y a des mouvements naturels qui ont à peu près cette amplitude-là.
Oui,
comment l'oreille discrimine, si vous voulez, le bruit de fond et un signal comme quand je vous parle, par exemple?
Bon, ça c'est une question difficile. En fait, l'oreille peut aller juste au niveau du bruit avec la détection. Et ce qui compte, c'est l'oreille sait distinguer des stimulus périodiques à certaines fréquences d'un bruit aléatoire en regardons la phase du signal. Ça veut dire les cils vont suivre en présence d'un stimulus périodique, aussi de manière périodique, qui est en phase avec le stimulus. Le signal nerveux à la suite est aussi bloqué en phase. Et ce blocage en phase peut être détecté, et ce qui n'existe pas avec un bruit plus aléatoire.
Franck Julcher, je vous remercie.